Comme tous les dimanches, on retrouve Bernard Abouaf pour notre conversation dominicale, si l'on peut dire. Bonjour Bernard.
Bonjour Serge.
Un an, ça fait un an que Joe Biden est président des États-Unis. Un an que Donald Trump a quitté ce poste tout en continuant à dire que l'élection a été truquée, ce qui n'a jamais été démontré d'ailleurs, bien au contraire. Un an et on a presque l'impression de se retrouver comme du temps de Barack Obama, qui était accusé de ne rien faire. Pourtant, comme le font remarquer certains Américains, la liste de ses réalisations est loin d'être négligeable. Une vraie législation durement gagnée sur les infrastructures, des poursuites fédérales agressives contre les conspirateurs et autres nationalistes blancs, et des créations d'emplois qui seraient en hausse. Le départ d'Afghanistan, décidé par Trump, et il a été fait à peu près en temps et en heure. L'économie, la crise sanitaire n'est pas de son fait et laisse des traces, dont une inflation mondiale sur beaucoup de produits et services. Comme Obama, on lui reproche donc de ne rien faire alors qu'en fait il est bloqué par le Sénat, qui ne vote pas les lois qu'il propose. Même des démocrates ne votent pas ces lois. Alors Bernard, est-ce un problème de compréhension de la démocratie américaine et de ses ressorts? Est-ce que l'avis des médias influence trop notre perception? Ou alors est-il vieux, sénile ou nul, comme certains veulent le faire croire?
Alors, en ce qui concerne le Proche-Orient, qui est, si vous voulez, mon domaine de compétence, je suis en désaccord avec tout ce que vous avez dit. Je ne suis rien.
D'accord, bon, c'est bien parti.
Je suis d'accord. Le départ de l'Afghanistan décidé par Donald Trump, mais c'est juste une déroute, la façon dont ça s'est passé. C'est une débâcle américaine. Il faut remonter à Saïgon pour retrouver un départ des Américains d'un pays comme ça a été fait. On a laissé des morts en Afghanistan, des morts américains. Dans l'histoire contemporaine américaine, ça restera comme l'un des échecs les plus cuisants des Américains. Mais alors après, si vous voulez, moi je vais effectivement me rester cantonné sur le Proche-Orient, parce que c'est le domaine que je connais, et c'est en général sur ça que les auditeurs qui viennent le dimanche après-midi sur Radio Shalom nous attendent, c'est sur ce qu'on connaît bien, et donc c'est le Proche-Orient. En fait, si vous voulez, Joe Biden, il est confronté à un double problème. Le premier, c'est que à partir du moment où vous aviez le départ simultané de Donald Trump et de Benjamin Netanyahu, dans le monde arabe, on imaginait un changement radical. Et ce changement radical, il n'est pas venu. Pourtant, on a dit quoi ? Et Trump et Netanyahou, les deux, c'est presque incroyable. On n'imaginait pas que les deux quitteraient le pouvoir en même temps. Donc là, maintenant, on va avoir un retour à la politique américaine de Bill Clinton, au moins si on ne revient pas à Barack Obama. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça pour deux raisons. La première, c'est que Joe Biden, effectivement, excusez-moi Serge de vous le dire, est apparu comme décevant à peu près tout le monde, y compris la presse américaine. Les gens sont très déçus de Joe Biden. Une espèce de tiédeur dans la manière de faire, un manque de leadership, un manque de décision, des hésitations. Regardez par exemple, je fais une toute petite incursion, la crise ukrainienne. Je veux dire, quand un grand président américain, on lui demande « Qu'est-ce que vous ferez si les Russes interviennent en Ukraine ?» et qu'il répond « Je ne sais pas, ça dépend de la profondeur de l'entrée en Ukraine. » On n'est pas face à un grand président. Un grand président doit avoir des lignes rouges, qui d'ailleurs ont été définies par la diplomatie américaine, et il dit, voilà, au-delà de cette limite, eh bien, nous prendrons des sanctions. Après, il n'est pas obligé de parler comme Trump. Il peut être modéré dans son expression, mais il faut qu'il ait des lignes rouges. Alors, il y a quand même des choses qu'il a laissé faire et qui sont à son acquis en ce qui concerne le Proche-Orient. Par exemple, les accords d'Abraham, c'est-à-dire la paix entre Israël, le Maroc, le Soudan, Bahreïn et les Émirats, il aurait pu être un peu idéologue, à Dieu ne plaise d'ailleurs, il aurait pu dire, comme le voulait la gauche de son parti, attendez, il faut qu'on associe la partie palestinienne, sinon ces accords, on n'en veut pas, il n'a pas fait ça. Il aurait pu revenir sur le déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, il n'a pas fait ça. Il aurait pu faire des déclarations tonitruantes sur la reconnaissance de l'annexion du plateau du Golan par Donald Trump, il n'a pas été, comme on dit en hébreu, miyodé ama. Donc, ça, c'est des acquis par rapport à Israël. Mais c'est juste ce qu'il n'a pas fait. Là, tout ce que je viens de vous dire, c'est une liste de « il n'a pas fait, il n'a pas fait, il n'a pas fait ». Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a rajouté à ces décisions qui, je répète, sont très positives? Mais c'est juste du « ne pas faire ». Joe Biden a un discours qui est inquiétant parce que c'est un discours qui n'a pas de colonne vertébrale. Par exemple, il a déplacé le consulat américain, il a réouvert le consulat américain à Jérusalem, ce qui fait que c'est... Même Macron ne fait pas ça. Macron a pourtant une politique française au Proche-Orient, qui veut deux États, deux peuples. Mais même lui, il n'a pas deux ambassades à Jérusalem. Alors, vous allez me dire, bah, évidemment, parce que l'autre, il est à Tel Aviv. Mais il n'empêche, il y a une espèce d'indécision, d'incohérence. C'est du Joe Biden. Et ça, au Proche-Orient, c'est très mauvais. Par rapport à l'Arabie Saoudite, c'est pareil. Sanctions, suite à l'assassinat de Khashoggi, pas sanctions, soutien déterminé pour un grand allié des États-Unis qui s'appelle l'Arabie Saoudite. On ne sait pas. On ne sait pas ce que veut Joe Biden. Et sur dossier iranien, allez, c'est son grand truc. Il est arrivé au pouvoir, il a dit en un mois, le dossier du nucléaire iranien sera réglé, c'est une question de quelques semaines. D'accord, vous avez vu un accord ? Il n'y a aucun accord. Les Iraniens continuent de multiplier les programmes de développement de leur nucléaire, avancent de plus en plus vers la bombe, et tout continue comme ça. Il ne s'est rien passé depuis l'élection de Joe Biden. On peut critiquer la politique de Trump, mais il se passait quelque chose. Trump vous disait, ben voilà, donc on va multiplier les sanctions, on va vers ceci, on va vers cela. Et Joe Biden, on va vers où ? On va vers, on ne sait pas.
Mais que peut-il faire ? Mais que peut-il faire sur le nucléaire ? Que peut-il faire avec l'Arabie Saoudite, qui en effet est un État, on va dire, avec des dirigeants qui sont contestables, mais que faire ? Pareil pour le nucléaire, est-ce qu'il faut bombarder le... Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Ah non, on n'a pas demandé de bombarder ça, personne
n'a évidemment
demandé ça. Et croyez-moi que, d'après moi, même les Israéliens ne le demandent pas.
Bien sûr.
Et par rapport au nucléaire iranien, on a deux solutions. Soit, ou alors, c'est ce qu'on appelle l'incertitude. La première solution, c'est de dire, bon, bah, quittez. Alors, vous continuez, vous, Iraniens, votre politique de déstabilisation du Proche-Orient, et vous continuez à vous diriger vers un programme de nucléaire qui vous amène inévitablement vers la bombe, vous nous prenez pour des idiots. Donc, dans ces cas-là, bon, très bien, j'arrête. Et on retourne aux sanctions. Ou le contraire, je vous donne quelque chose. Par exemple, je renonce à la demande classique de Donald Trump, qui est, je veux mettre aussi dans le panier des demandes américaines, par exemple, le développement d'armes conventionnelles. Je demande à ce qu'on mette dans le panier des demandes américaines la fin de votre programme de déstabilisation au Proche-Orient. Mais Joe Biden, il fait ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'il est ni dur, ni volontaire dans le sens des concessions. Ça par rapport aux Iraniens. Mais par rapport aux Israéliens, par rapport au dossier israélo-palestinien, il dit qu'il est pour deux États, pour deux peuples, parce que c'est la doctrine classique américaine. C'est celle de tout le temps, hein, ne croyez pas, c'est pas seulement une question de... Ouais. Il n'y a que Donald Trump qui a mis un terme à cette idée. C'était aussi l'idée de George Bush, qui était républicain. Donc, il dit ça, mais qu'est-ce qu'il fait ? Dites-moi, montrez-moi une chose qu'il a fait. Dans ce sens-là ou dans un autre. Et il se trouve que je vais peut-être un peu montrer que je comprends ce que vous dites, dans le sens où il y a aussi une réalité objective pour Joe Biden. C'est que c'est facile de critiquer, vous avez raison. Il n'y a pas de possibilité de faire un État palestinien, quelle que soit la doctrine. Qui que vous vouliez, tout le monde vous dit, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible un État palestinien. Si vous parlez en off avec des responsables du Quai d'Orsay, s'ils sont honnêtes, ils vont me dire, mais quel État palestinien ? C'est plus faisable. Il y a trop de juifs qui vivent dans les territoires. C'est pas faisable. Puis même, avec une autorité palestinienne corrompue, avec quoi ? Avec qui ? Comment faire un État palestinien ? C'est pas possible. C'est pour ça que je rejoins un peu ce que vous dites. C'est un peu ce que vous avez dit par rapport au nucléaire. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais il n'empêche que le constat, après un an de pouvoir de Joe Biden, est totalement négatif pour le président américain.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Non, mais je comprends. On est d'un côté, on avait un président qui était un peu un éléphant dans un magasin de porcelaine et qui cassait tout, qui a fait des choses positives et des choses négatives. En tout cas, pour la politique étrangère et du côté d'Israël, ça a fait avancer les choses. Ça serait difficile de dire le contraire. De l'autre, une position très compliquée. C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais d'un côté, on accuse les Américains d'aller trop loin, de bouger trop, de trop faire. Et s'ils le font pas, on dit qu'ils font pas assez. Enfin, ils sont dans une situation bien compliquée, j'ai l'impression. Bernard, on en reparlera très bientôt, toujours sur l'antenne de Radio Shalom, évidemment, j'en suis certain.
Bonsoir à vous.
Bonsoir.